France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Je trouve encore en moi-même une aspiration vers une vie plus élevée, ou, comme on l'appelle, spirituelle. Et c'est le cas pour la plupart des hommes. Et aussi un autre instinct vers une vie primitive, rude et sauvage. J'aime la vie sauvage autant que la vie morale.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Faut-il faire de Henry David Thoreau, cet auteur américain disparu voici plus de 150 ans, un précurseur privilégié de l'écologie? C'est l'interrogation qui parcourt le beau livre qu'Henriette Levillain, professeur émérite à Paris-Sorbonne, vient de consacrer à un homme qui est considéré désormais comme l'un des écrivains et philosophes importants du 19e siècle. Son œuvre la plus notoire, Walden ou La vie dans les bois, est disponible en plus de 200 langues différentes et elle figure aujourd'hui en bonne place dans la bibliothèque des défenseurs patentés de la nature, cette nature dont Thoreau célébrait la vigueur inlassable. « Je reste en plein air, disait-il, à cause de l'animal, du minéral, du végétal qui sont en moi. » Il faut ajouter que ces préoccupations, comme celles de beaucoup d'écologistes de notre temps, se sont élargies à partir de la défense de la nature vers la dénonciation plus générale du rôle du profit débridé lorsqu'il obsède les pouvoirs publics et déséquilibre la vie collective. Dans un livre intitulé « La désobéissance civile », Thoreau a expliqué qu'il incitait chaque citoyen à refuser, comme il le fit lui-même, au risque d'être emprisonné, de payer ses impôts, lorsque ceux-ci allaient vers des gouvernants qui violaient les droits des humains. Révolté par l'esclavage, il s'est porté au premier rang des abolitionnistes. L'ensemble de ses écrits, dont son vaste journal, ont été progressivement édités après sa mort prématurée, survenue en 1862, grâce à quoi sa notoriété s'est établie progressivement à un haut niveau. Ainsi, Thoreau a-t-il pu inspirer des personnages historiques aussi divers que le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jack Kerouac ou Jim Harrison, et même Stéphane Hessel. On imagine mal, dans ces conditions, qu'il puisse, à ce micro, nous laisser indifférents.
Comme je rentrais chez moi avec ma brochette de poisson, laissant traîner ma canne à pêche, il faisait presque nuit, et j'aperçus une marmotte traversant furtivement le sentier que je suivais. Je ressentis un frisson de plaisir sauvage, étrange, et j'eus la tentation soudaine et vive de la saisir et de la dévorer toute crue. Non pas que j'eusse faim à ce moment-là, mais à cause de ce qu'elle représentait de vie sauvage. Une ou deux fois, pourtant, tandis que je vivais près de mon étang, je me surpris à courir les bois comme un chien de chasse affamé, en proie à un étrange déchaînement, cherchant quelque gibier que je puisse dévorer, et aucun n'aurait pu me sembler trop sauvage. Les lieux les plus perdus m'étaient devenus familiers sans que je puisse me l'expliquer. Je trouve encore en moi-même, une aspiration vers une vie plus élevée, ou, comme on l'appelle, spirituel. Et c'est le cas pour la plupart des hommes. Et aussi un autre instinct vers une vie primitive, rude et sauvage. Et je les respecte tous deux. J'aime la vie sauvage autant que la vie morale.
Henriette Louvillain, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé un extrait de Walden ou La vie dans les bois de Thoreau. Vous prononcez Thoreau en mettant sa langue sur ses dents, évidemment, en français, pour éviter qu'il y ait la moindre ambiguïté. Donc nous dirons Thoreau, un texte de 1854 qui est lu par Jean-Yves Berthelot dans Une vie, une œuvre de Françoise Estelle. C'était sur France Culture le 24 juillet 2007. Je me demande si vous le trouvez aussitôt dans sa diversité dans ce texte, parce qu'au fond, vous montrez bien dans votre livre qu'il est difficile de définir Thoreau. Est-ce que c'est un rebelle, un philosophe, un poète, un penseur politique, un précurseur, un prophète, tout ça ?
Tout ça. Tout ça à la fois, et effectivement sans hiérarchie. C'est ça qui rend les choses à la fois passionnantes et un petit peu déconcertantes. J'aime bien cet extrait en préface, parce que il réunit, je dirais, le plus concret de Thoreau, à savoir son goût immédiat de la nature et son goût des bêtes, en particulier des bêtes sauvages. Et en même temps, il y a une sorte de hiérarchie. C'est pas simplement le goût immédiat et concret de la nature, c'est aussi la recherche spirituelle. Le mot est dans le texte et je trouve qu'il est extrêmement important, puisque dans la nature, il cherche quelque chose d'autre que la nature, avec cette idée des transcendantalistes dont Emerson, son maître, est évidemment le grand chef, en quelque sorte, l'aspirateur en tout cas, que dans la nature, il y a une présence divine. Et Thoreau a toujours eu cette idée que Dieu n'était pas dans les églises, mais bien dans la nature. Et puis la marmotte... A mangé toute crue, c'est évidemment ce que l'on appelle un peu l'ensauvagement chez Thoreau. Devenir sauvage au travers, par exemple, des protéines de la marmotte, c'est une façon très, très pittoresque de voir les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en a goûté une fois de la marmotte et qu'il a trouvé ça absolument dégoûtant. Il s'y est pas remis, que d'autre part, il a été extrêmement opposé à la chasse. Il trouvait que la chasse était vraiment barbare. Emerson partait quelquefois avec un fusil pour chasser et il trouvait ça très déplaisant qu'un philosophe se mette à chasser. Donc il y a à la fois cette incroyable perception de la nourriture vivante de la marmotte, mais qu'il va finalement refuser, puisque non seulement il va la trouver très mauvaise lorsqu'il en aura goûté, mais que d'autre part, à laquelle il s'opposera, puisqu'il refusera la barbarie de la chasse.
La barbarie de la chasse, et là, on trouve déjà une anticipation des comportements, des protestations, des refus des écologistes d'aujourd'hui. Alors, je crois que d'entrée de jeu, Henriette Louvillain, il faut que nous posions la question suivante qui est discutée. Est-ce que c'est vraiment un précurseur de l'écologie ? Vous nous avez rappelé dans votre ouvrage que le terme était apparu en 1866 sous la plume d'Ernest Haeckel, qui était un biologiste sous son sens étymologique, c'est-à-dire oikos, la maison, et logos, le discours, la science, l'étude. Alors, c'est l'étude des environnements naturels. Est-ce qu'à partir de cette définition du temps et de celle d'aujourd'hui qui a évolué, vous diriez que Thoreau est vraiment un homme qui annonce l'écologie ?
Effectivement, on se l'est approprié comme pionnier de l'écologie. Il faut toujours avoir des ancêtres quand on a des idées nouvelles. Donc, l'ancêtre, dans la mesure où il s'est différencié des Américains de l'époque, qui était plutôt pour la conquête de l'Ouest, l'enrichissement, l'or, la promotion sociale. Lui, toute la promotion qu'il trouve, c'est celle de la nature. Et il ne considère pas du tout la société environnante comme une société modèle. Donc, on peut trouver, effectivement. En revanche, les bases de l'écologie moderne, qui sont l'idée que la planète va mal et qu'il faut la soigner, il ne pouvait absolument pas l'avoir en tête.
Il est absent, oui.
Absolument, parce que la planète allait bien.
On voit déjà l'évolution de la société d'acclimatation du 19e au 20e siècle. Est-ce qu'il faut acclimater l'homme à la nature ou refuser que la nature soit modifiée au profit de l'homme ?
Exactement. Alors, ce qu'il y a chez lui en germe et qui est intéressant, c'est l'idée qu'il faut créer des réserves. Il est un des premiers à avoir compris qu'il fallait des réserves.
Des parcs nationaux, oui.
Des parcs nationaux. Et ça, les États-Unis sont riches de parcs nationaux et sont allés vraiment dans le sens de Thoreau, dans la mesure où ils ont compris que leur trésor, c'était la grandeur, la beauté, la variété de leur nature, qui était absolument stupéfiante, et que d'ailleurs les colons ont découvert très rapidement qu'il y avait une nature qu'ils n'avaient jamais trouvée en Europe.
Alors il faut que nous commencions par expliquer quel a été le creuset où cette personnalité s'est forgée, avec d'ailleurs, vous évoquez les colons, un renvoi à une bataille qui a opposé les Anglais aux insurgés à Concorde. Dites-nous un peu le décor au sens géographique et au sens sociologique ou psychologique de l'enfance et de l'émergence de votre Henry Thoreau.
Bon, nous sommes en Nouvelle-Angleterre. Je trouve que rien que l'appellation Nouvelle-Angleterre dit beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est à la fois l'Angleterre, avec toute une société qui d'ailleurs aura du mal à quitter les racines de l'Angleterre, la culture de l'Angleterre, les fameuses sociétés très, très dorées, comme on dit, de la fin du 19e, est une société quand même arc-boutée sur l'anglicanisme et sur les principes anglais. En revanche, il y a une nouvelle Angleterre, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît à partir justement des années 1850, où l'on veut créer une identité américaine qui serait non seulement fondée sur l'idée de la nature, mais fondée sur les créativités que l'on pourrait trouver dans cette nature.
C'est là que nous allons rencontrer votre Emerson que vous évoquiez tout à l'heure. Quelle est l'origine sociale de Thoreau ?
Thoreau appartient à une middle class de farmers, des fermiers. Hein. Et les fermiers, à l'époque, ont une importance, ne serait-ce qu'économique, absolument gigantesque, mais ont une vie très rude. Très rude, parce que on n'exporte pas à l'époque. On vit vraiment sur ce que l'on produit et que l'on offre aux autres. Donc, lorsque vont arriver des crises économiques, et il y en aura sous le règne de Thoreau, si j'ose dire, pour parler de lui, c'est difficile de dire le règne, mais enfin, à son époque, il y aura une crise économique qui va être gravissime. Parce que la production ne fonctionne plus. Il y a eu des problèmes climatiques déjà à l'époque et que d'autre part, on n'exporte pas.
Donc symboliquement, ses parents qui étaient des fermiers qui vivaient difficilement sont contraints de devenir commerçants.
Oui, et il y a chez lui d'ailleurs une phobie du commerce. Donc lui a dans ses ancêtres d'ailleurs, et même je dirais dans le premier qui est venu à Boston, il a des commerçants, car il n'y avait pas d'autre moyen de devenir fortuné et de gravir les échelons de la société que le commerce. Mais lui préfère de loin les fermiers. Et d'ailleurs, les fermiers ont une sorte d'attrait presque héroïque dans la mesure où on considère que c'est eux qui ont battu les Anglais dans la fameuse bataille dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est North Bridge, qui est ce pont, le pont de North Bridge. Les fermiers ont un rôle héroïque, peut-être plus légendaire que véritable, mais enfin qui est devenu tellement légendaire.
Et le jeune Henry est bercé dans son enfance par ce souvenir-là.
Absolument, que du coup, la statue que l'on a d'ailleurs fait fondre et créée à l'époque à l'emplacement de ce North Bridge, représente un fermier avec bizarrement un fusil à la main, ce qui ne devait quand même pas être très courant chez les fermiers, qui malheureusement deviendra bien fréquent ensuite, on le sait, dans la ruée vers l'ouest, mais qui représente donc un peu, je dirais, comme le David de Donatello, hein, une sorte d'épiphénomène incroyable d'un jeune homme qui a tout d'un coup trouvé un fusil pour défendre la patrie. Carrément la patrie.
La bataille est de juillet 78. Thoreau naît en 1817, 40 ans plus tard, mais l'ambiance est encore là.
C'est-à-dire que l'on réinvente le patriotisme à cette époque-là, car on se rend compte qu'il y a plutôt une sorte d'affaissement du patriotisme et qu'il faut un peu un réveil. Et encouragé beaucoup par les pasteurs, par l'Église, non pas anglicane, puisque ça, c'est évidemment les Anglais, mais plutôt toutes les églises différentes qui gravitent autour de la New Parish Church de Concorde.
Le révérend Père Ripley.
Voilà, le révérend Père Ripley. On encourage justement une sorte de réveil patriotique. C'est là que Emerson écrit un poème que l'on va non seulement dire, mais chanter. Et Thoreau sera dans le chœur, d'ailleurs. Et un poème qui aura vraiment, comme tous les chants, d'ailleurs, dans les moments difficiles, qui aura un pouvoir énorme sur la société de Concorde, qui est une petite société.
Rappelez-nous qui était Emerson, puisqu'il a tant compté dans la formation intellectuelle et psychologique.
Alors,
de Thoreau.
Emerson a 10 ans, bien 10 ans de plus que Thoreau. Et à l'origine, c'est un étudiant de Harvard qui a beaucoup, beaucoup apprécié les études à Harvard. Harvard, qui est une université quand même encore récente, mais très importante, puisqu'en fait, elle a surtout créé, d'une certaine façon, les grands textes de l'indépendance.
C'est pour parce ça que Emerson pousse d'ailleurs Thoreau à aller faire des études à Harvard.
Oui, exactement. Mais enfin, il n'est pas le seul à le pousser, puisqu'en fait, ses maîtres le trouvent particulièrement intelligent. Et donc, on va lui accorder une bourse, comme Emerson. D'ailleurs, Emerson aussi a eu une bourse. Mais Emerson est sorti, je dirais, très heureux de Harvard, à la différence de Thoreau, qui lui aura été très malheureux et qui ne reviendra jamais sur ces années-là comme des années de bonheur.
Qu'est-ce que c'est que ce transcendantalisme dont Emerson est le pape ?
Le transcendantalisme, c'est l'idée de se distinguer de la philosophie européenne, de trouver, je dirais, les marques américaines d'une philosophie en construisant un rapport entre la pensée divine et la nature, c'est-à-dire l'idée que en allant dans la nature, il y a une immanence du divin. Emerson est quelqu'un qui d'ailleurs était au début professeur à la Divinity School de Harvard et puis qui finalement a démissionné de sa fonction de pasteur pour devenir philosophe et créer autour de lui une sorte de confrérie, d'académie, comme diraient les anciens, qui seraient d'accord avec cette perspective. Et ils sont pas très nombreux, mais importants, parce qu'ils ont créé une revue qui s'appelle le Dial. D'ailleurs, une femme à l'époque très importante intellectuellement, qui s'appelle Margaret Fuller, va diriger pendant quelques années, et dans laquelle les uns et les autres vont s'exprimer. Ils avaient d'autre part des conférences qu'ils donnaient et il y avait vraiment un accord sur beaucoup de leur philosophie.
Alors si l'on en vient au rapport plus direct de Thoreau avec la nature, d'abord il y a un aspect qui peut apparaître anecdotique mais qui ne l'est pas tout à fait, c'est que sa famille se mêle de faire des crayons parce qu'on découvre une sorte de mine de graphite.
Oui, il y a un oncle assez bizarre d'ailleurs, un vieux célibataire mythique que la famille admire beaucoup parce que il fait des grandes marches dans les montagnes et qui découvre effectivement une mine de graphite, ce qui veut dire qu'il avait l'œil, ce que Thoreau aura lui aussi, et que après avoir fait expertiser cette petite mine de graphite, il découvre qu'elle est de très bonne qualité et il propose au père de Thoreau, qui n'avait pas beaucoup d'argent et pas beaucoup non plus d'intérêt pour la ferme, il lui propose de partager les parts d'une société dans laquelle il créerait des crayons. Alors, le père est à l'esprit pratique et certainement surtout, il sait vendre son concept, ce qui est très important. Mais il n'est pas du tout intéressé par tout ce qui est, je dirais, développement du matériau. Et c'est Thoreau qui va justement beaucoup l'aider là-dessus, parce que lui a l'esprit pratique, il est très manuel, d'autre part, et c'est incroyable d'ailleurs ce qu'il est manuel, et il va arriver à faire que les crayons seront de meilleure qualité. C'est lui qui instituera d'ailleurs les différentes sortes de crayons que nous connaissons maintenant.
Le fait qu'il soit manuel est très important dans l'émergence de cette fameuse cabane de Walden dont nous allons parler maintenant. Et cette relation avec la nature, vous avez entendu tout à l'heure un premier texte, en voici un second de Thoreau, qui est lu à nouveau par Jean-Yves Berthelot. Nous passons de la marmotte de tout à l'heure aux grenouilles, etc.
Ne serait-ce pas délicieux de rester plongé jusqu'au cou dans un marais solitaire pendant tout un jour d'été, embaumé par les fleurs du myrica et de l'érelle, bercé par ces ménestrels que sont le moucheron et le moustique? Disons 12 heures de conversation familière avec la grenouille tachetée. Le soleil se lèverait derrière l'aune et le cornouiller gravirait allègrement les trois largeurs de main qui le séparent de son méridien et irait enfin se coucher derrière quelques tertres hardis à l'occident. Entendre dans mille chapelles vertes le moustique chanter son chant du soir et le butor se mettre à mugir dans son fortin caché comme le canon du soleil couchant. Certes, autant vaut tout un jour s'imbiber des sucs du marais que cheminer à sec sur le sable. Le froid et l'humide ne sont-ils pas des expériences aussi précieuses que le chaud et le sec? De même, l'ombre ne vaut-elle pas le soleil? La nuit, le jour? Pourquoi serions-nous toujours aigle ou caille, jamais hibou ni engoulevent?
Beaucoup d'animaux, décidément, Henriette Levillain, dans ces passages et descriptions qui sont belles.
J'aime beaucoup ce passage, il est très très bien choisi, je trouve, avec en plus le bruitage, on y est. Il y a beaucoup de choses à dire sur un texte comme celui-là. D'abord le côté inventaire des animaux, ce catalogue des animaux. Il adore dire les noms des animaux. Alors, c'est bien de les avoir évidemment en traduction. C'est encore plus beau quand on les a dans le texte. Une autre chose que je trouve très intéressante, c'est que ce rêve, parce que c'est un rêve finalement de vivre dans un marais avec des moustiques, il ne l'a jamais vécu. Et c'est là le côté écrivain que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que il nous fait passer pour des choses merveilleuses quelque chose qui est pour moi abominable. Hein. Vivre les pieds dans un marais avec des moustiques autour de nous, c'est je crois ce que l'on peut haïr le plus.
Et une émission sur vous-même une autre fois, Henriette Levillain, effectivement, sur vos phobies. Mais chez lui, il y a la phobie de la ville. D'abord, quand même, le désir de se trouver dans ce décor, même si la littérature embellit. Il y a d'abord eu un voyage important, 7 jours sur le fleuve. Expliquez-nous comment il en est arrivé dans cette cabane qui est devenue la cabane de Walden, qui a été reconstituée ou qui existe toujours, que vous avez visitée. Qu'est-ce que ça signifie en termes concrets, en termes symboliques?
D'abord, la cabane n'est pas quelque chose de si original à l'époque. Hein. Les Américains qui ont bien perçu la grandeur, la sauvagerie de cette nature ont très vite trouver dans cette nature le moyen à la fois de s'en protéger, parce qu'elle était tout de même assez dangereuse, et en même temps de s'en imprégner. Donc la cabane, qui est rustique, qu'il construisait en général eux-mêmes, comme il l'a fait d'ailleurs lui-même, n'était pas si originale que cela. D'ailleurs, quand vous allez dans les forêts, que vous voyez quelquefois des petites cabanes qu'ont construites les chasseurs, vous comprenez l'intérêt de la cabane dans une forêt. C'est un abri et c'est en même temps une manière d'observer nuit et jour la nature. Donc oui, il est un manuel, il l'a construit peut-être mieux que les autres parce qu'il crée en particulier une énorme cheminée en briques, dans sa reconstitution, puisqu'en fait la cabane elle-même, elle s'est détruite. Hein. Donc dans sa reconstitution, elle est très intéressante, cette cabane.
Elle n'est pas vraiment isolée, elle est assez proche de ses parents, on ne peut pas imaginer. Ouais, c'est pas un ermite, ce taureau, du tout. Il reste proche de la
civilisation. Donc on en a fait un ermite. Et ça, c'est une erreur d'appréciation parce que il avait absolument besoin d'avoir le cordon ombilical avec sa famille.
C'est ni un ermite, ni d'ailleurs un romantique à Chateaubriand. C'est pas du tout. On est très très loin d'une espèce de vision symbolique de la.
Non, parce qu'il avait l'exactitude en plus. Chateaubriand ne cherche pas l'exactitude, il cherche sa rêverie. Hein. Donc, et il n'a pas vu tout ce qu'il dit qu'il a vu, tandis que Thoreau voit. Et
c'est beaucoup plus concret, cela nous intéresse,
exact,
du point de vue de la réflexion sur l'écologie contemporaine.
Oui, c'est beaucoup plus exact, c'est-à-dire qu'il est un naturaliste, hein. Il n'est pas simplement un homme qui marche dans la nature. Hein. Tout à l'heure, vous avez cité ce texte avec tous les noms, eh bien l'engoulevent, il l'a vu, c'est pas du tout une fantaisie. Et je pense que c'est peut-être ce côté-là qui est le plus intéressant chez Thoreau, à la fois qu'il peut rêver la nature... Et en même temps, il la connaît, mais vraiment scientifiquement.
Voici un extrait de Walden ou La vie dans les bois. Donc, je rappelle que c'est un ouvrage de 1854 qui est lu ici par Bruno De Volder dans Une vie, une œuvre sur France Culture du 10 septembre 1987. Sa vie dans la cabane. Cette description nous dit beaucoup. Je crois que vous allez nous le confirmer.
Je ne lus aucun livre le premier été. Je sarclais des haricots. Non, souvent je fis bien mieux que cela. Il y eut des fois où je ne pus me permettre de sacrifier la fleur du moment présent à aucun travail, soit de la tête, soit des mains. J'aime cette vaste marge dans ma vie. Parfois, un matin d'été, ayant pris mon bain accoutumé, je m'asseyais au soleil devant ma porte, du lever du soleil jusqu'à midi, absorbé dans une rêverie parmi les pins, les hickories et les sumacs, dans une solitude tranquille et sans trouble, tandis que les oiseaux chantaient alentour ou voltigeaient sans bruit à travers la maison. Jusqu'à ce que le soleil derrière ma fenêtre à l'ouest, ou le bruit de la charrette d'un voyageur sur la grande route au loin, me rappela le cours du temps. En ces temps, je poussais pendant la nuit, comme le maïs, et c'était beaucoup mieux que n'importe quel travail de mes mains. Ce n'était pas du temps soustrait de ma vie, mais autant en sus pour mon ordinaire. Je réalisais ce que les orientaux entendent par contemplation et par renoncement aux actions. En général, je ne me souciais pas de la façon dont s'écoulaient les heures. Le jour avançait comme pour éclairer un de mes travaux. C'était un matin, et voilà. Maintenant, c'est le soir, et rien de remarquable ne s'est accompli. Au lieu de chanter comme les oiseaux, je souriais en silence à mon incessante bonne fortune.
Décidément, Henriette Levillain, comme vous le dites quelque part dans votre livre consacré à Thoreau, l'abstraction n'est pas sa tasse de thé. Et on comprend aussi pourquoi, quand Emerson, son maître, vient le voir, il lui dit « Mais que faites-vous là-dedans ?» Et il répond « Et vous, que faites-vous dehors ?»
Oui, c'est un très joli texte, parce que la rêverie ainsi définie, c'est exactement déjà Bachelard à l'avance. Hein. Bachelard a parlé d'ailleurs de Thoreau, il était tellement perspicace sur les auteurs des grandes rêveries qu'il avait trouvé Thoreau à une époque où personne en France ne connaissait Thoreau.
Mais est-ce que Bachelard ne dit pas quelque part qu'il ne décrit pas l'océan parce qu'il ne le connaît pas ?
Absolument. Ça m'a permis justement de comprendre pourquoi Thoreau, mais ça c'est dans son dernier ouvrage, aura tellement le choc en voyant l'océan qui diffère du lac. Mais ce que je trouve beau, c'est cette manière qu'il a de revivre des moments et de les prolonger dans sa lecture et dans son écriture. L'écriture était absolument nécessaire à Thoreau. Son journal et ses écrits, ce n'est pas, je dirais, exactement un carnet de bord. Hein. C'est vraiment quelque chose qui prolonge et qui va beaucoup plus loin que ce qu'il a jamais vécu. On l'a vu tout à l'heure avec les textes que nous avons écoutés sur la marmotte, sur les moustiques. À chaque fois, c'était prolongement de ce qu'il a vécu, ou même d'ailleurs des éloignements par rapport à ce qu'il a connu et qu'il rêve d'avoir vécu. Donc le texte est vraiment, de ce point de vue-là, très, très, très parlant.
Quelqu'un l'a comparé à Diogène, c'est-à-dire un personnage qui cherche la vie bonne dans une frugalité assumée. Est-ce que ce parallèle vous paraît avoir
oui,
un sens ?
Oui, c'est absolument exact. Ces invocations sur la sobriété qui tiennent dans tout le premier chapitre de Walden, qui s'appelle « Economy », qui est très ennuyeux, je dois dire, très, très prédicateur, hein, finalement. Ce sont des recettes de vie, les unes après les autres, avec beaucoup d'additions, parce qu'il aimait beaucoup les chiffres, vont dans le sens de ce que les écologistes souhaitent, et plus que les écologistes, d'ailleurs, je dirais les humanistes, à savoir éviter le gaspillage, éviter l'enrichissement, éviter le matérialisme.
De décroissance, comme on dirait aujourd'hui, du côté de certains écologistes ?
Oui, certainement, certainement. En tout cas, les écologistes se ressentent bien dans cette forme de vie qui est effectivement beaucoup, beaucoup plus sobre. Ils ne boivent pas, ils mangent des haricots, ils vivent de ce qu'ils cultivent. Bon, tout ceci, je dirais, avec quand même des ombres, à savoir qu'il va quand même se nourrir au moins une fois par semaine chez ses parents, et la mère était une très bonne cuisinière. Donc, il y a à la fois ce qu'il rêve être, et en même temps ce qu'il est. J'aime bien cette complexité. Et ce qu'il espérait, Thoreau, c'est que ses ouvrages seraient la Bible de la génération à venir. Malheureusement, ça a été un échec, ça.
Il faudra attendre. Devenu une Bible pour beaucoup, mais plus tard. Oui. Nous allons y venir tout à l'heure, mais je voudrais que vous montriez maintenant comment cette vision qu'il a de la société, du monde, etc., peut le conduire à des combats plus larges, en particulier au combat très intéressant vu d'aujourd'hui sur la désobéissance civile. Racontez-nous ça.
Thoreau ne voulait pas payer ses taxes. Et ça, bien avant qu'il a été arrêté et mis en prison.
Phobie administrative, comme on a dit d'un ministre il y a quelques années qui ne pouvait pas payer ses impôts. Mais les raisons sont plus théoriques, je crois, chez Thoreau, non ?
Je ne sais pas quelles sont fondamentalement les raisons à l'origine. Mais en tout cas, plus ça avance, plus il se cabre sur l'idée qu'il n'y a aucune raison qu'il paye sa taxe locale. Vous vous rappelez peut-être que Margaret Thatcher a eu d'ailleurs des gros problèmes avec les étudiants dans les universités à qui on imposait la poll tax. Elle a dû reculer.
Ils brandissaient Thoreau, ces étudiants-là ?
Non, je ne crois pas. Mais je crois qu'ils brandissaient le droit et leur liberté. Bon, ce refus vraiment était un entêtement, mais il n'en avait pas fait de théorie. Et c'est lorsqu'il a été en prison qu'il a pensé à écrire quelque chose.
24 heures, ça n'a pas été trop douloureux.
Non, mais parce qu'il y a une bonne tante qui...
Il est venu apporter l'argent.
Qui a certainement apporté l'argent. Vous savez qu'on peut faire ça dans les prisons américaines. Hein. On a vu un exemple il n'y a pas si longtemps.
Eh bien, il faut que nous entendions un extrait de la désobéissance civile que vous pourrez commenter ensuite, Henriette Levillain. Un texte donc de 1849 qui est lu ici dans Les Voix de l'Amérique de Louis-Charles Sirjac sur France Culture le 23 juin 1973.
Le gouvernement américain, qu'est-ce donc sinon une tradition toute récente qui tente de se transmettre intacte à la postérité, mais perd à chaque instant de son intégrité. Il n'a ni la vitalité, ni l'énergie d'un seul homme en vie, car un seul homme peut le plier à sa volonté. C'est une sorte de canon en bois que se donnent les gens. Mais il n'en est pas moins nécessaire, car il faut au peuple des machineries bien compliquées, n'importe lesquelles, pourvu qu'elles pédaradent, afin de répondre à l'idée qu'il se fait de gouvernement. Les gouvernements nous montrent avec quel succès on peut en imposer aux hommes, et mieux, comme ceux-ci peuvent s'en imposer à eux-mêmes, pour leur propre avantage. Cela est parfait. Nous devons tous en convenir. Pourtant, ce gouvernement n'a jamais de lui-même encouragé aucune entreprise, si ce n'est par sa promptitude à s'esquiver. Ce n'est pas lui qui garde au pays sa liberté, ni lui qui met l'Ouest en valeur, ni lui qui instruit.
Il me semble que ce texte, Henriette Levillain, sur la désobéissance civile, illustre assez bien ou développe un propos que j'ai lu chez vous, à propos de Thoreau. Être philosophe, ce n'est pas seulement avoir des pensées profondes ou même fonder une école, c'est aimer la sagesse au point de vivre selon ce qu'elle prescrit, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. C'est résoudre les problèmes de la vie, pas seulement en théorie, mais en pratique. Il se veut très concrètement un citoyen pratique.
Il se veut surtout individualiste. En fait, on touche de près d'ailleurs ce paradoxe des États-Unis que l'on connaît bien, qu'on vit encore aujourd'hui, à savoir le fédéralisme d'un côté, avec les États qui ont leurs lois, leurs tribunaux, leurs juges, et le gouvernement. Et il y a un peu comme en Italie, une sorte de phobie du gouvernement central.
Qui pourtant aux États-Unis... se trouve dans l'actualité quelque peu violentée, cette phobie-là.
Oui, mais précisément parce que ce gouvernement ne respecte pas du tout les différents États et leur jurisprudence. Là, Thoreau, je trouve, est très moderne hein, dans cette manière qu'il a de montrer que finalement, le gouvernement n'est pas celui qui a les grandes décisions, en particulier la ruée vers l'or. Et mais ce qui est en même temps paradoxal, c'est qu'il est le dernier de ceux qui ont revendiqué les grandes décisions du pays. La ruée vers l'or, ça ne l'a jamais attiré. Il est resté, au contraire, à Concorde même, et même au moment où la ruée vers l'or commence, en 1845, lui s'en va plutôt vers l'Est. Donc, c'est à la fois, effectivement, des beaux, grands principes, mais en même temps, si vous le voyez dans la pratique de sa vie, on ne sait pas très bien où le situer. Il est individualiste.
Mais le refus de l'or, c'est aussi le refus d'un certain capitalisme. C'est pourquoi il déteste les chercheurs d'or. On arrive vers son regard sur la société, sur le profit comme un élément de profonde détérioration d'une société morale,
oui,
et pratique.
Tout à fait, c'est le refus du matérialisme aussi, qui dans le transcendantalisme est honni.
Hein, de son maître Emerson.
Voilà, exactement. C'est l'enrichissement, c'est veut dire vraiment s'asseoir sur un tas d'or, hein, pour lui. Je ne sais pas si le mot capitalisme, pour lui, a du sens. Hein.
Je trouve cet autre texte qui illustre bien ce que vous venez de dire, Henriette Levillain. La plupart des hommes, même dans notre pays relativement libre, par ignorance ou par erreur, sont si absorbés par les soucis inutiles et le rude et vain labeur de leur vie qu'ils ne peuvent pas en cueillir les fruits les plus délicats. Leurs doigts maladroits et tremblants à cause d'un travail accablant en sont devenus incapables. En fait, le travailleur n'a pas le loisir qui lui permettrait de conserver son intégrité quotidienne véritable. Il n'a pas le temps d'être autre chose qu'une machine. On a l'impression qu'il connaît déjà le fordisme.
Oui, absolument. Et puis en même temps, on ressent très très bien ce qu'il a apprécié des sagesses asiatiques, pour le coup. Et on comprend pourquoi Gandhi a été tellement intéressé, sinon par le livre, parce que je n'ai pas sûr du tout qu'il ait lu Walden, mais en tout cas par l'esprit qu'il y a dans ce livre, tel qu'il l'a interprété lui. Donc effectivement, cette idée que d'une gratuité dans la vie et du temps livré au silence, comme dans le texte tout à l'heure sur la rêverie au bord de sa cabane, qui était très beau, sur le silence et la méditation.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Ces préoccupations que l'on peut, si je vous suis bien, Henriette Levillain, dénommer pré-écologiste, le conduisent au-delà de ce souci de la nature à une certaine vision de la société telle qu'elle est, telle qu'elle risque de violer des principes fondamentaux sur la liberté de l'homme. Et c'est là qu'on retrouve la question de l'esclavage. Il faut s'attarder un instant sur le très célèbre épisode de Brown. Il faut rappeler que c'est après le vote d'une loi du Congrès américain qui a autorisé dans l'ensemble du pays de rattraper les esclaves fugitifs venus du Sud.
Il faut repartir un petit peu en arrière et se rendre compte que le pays n'était pas encore uni, comme nous le lisons, nous l'entendons dans cette appellation État uni. Hein.
On est avant la guerre de sécession, bien sûr.
On est avant la guerre de sécession.
Les années 1860.
Et à cette époque-là, effectivement, les États du Sud, les sudistes, étaient des États esclavagistes pour des raisons économiques. Le coton était évidemment leur grande production et ils avaient absolument besoin des esclaves. En tout cas, besoin des esclaves, ils avaient considéré qu'ils avaient besoin des esclaves. Donc, ils arrivaient nombreux et étaient parfois bien traités, mais rarement, et le plus souvent très maltraités. Donc ceux qui étaient maltraités s'enfuyaient et allaient vers le nord. En Nouvelle-Angleterre, je dirais que c'était un peu le règne de l'hypocrisie, parce qu'on avait besoin, évidemment, du coton pour les industries textiles, dont on produisait des grandes quantités, qu'on envoyait d'ailleurs en Angleterre et en Europe. En revanche, on était anti-esclavagiste.
Donc on ne se préoccupait pas, comme parfois aujourd'hui, la façon dont
Exactement.
Des produits venus de loin sont fabriqués aux dépens des droits des humains.
Exactement, on n'était pas le scandale Chine. Bon, effectivement. Le Nord était donc anti-esclavagiste, théoriquement. Mais en pratique, qu'est-ce qu'il faisait ? Certains, et surtout les femmes d'ailleurs, se réunissaient pour savoir quoi faire pour aider les fuyards, car il y avait des fuyards qui venaient du Sud, et les emmener jusqu'au Canada. Ils passaient la frontière du Canada et ils arrivaient, ils étaient libres. C'est ce qu'on appelait le train souterrain. Et donc, les femmes de la famille Thoreau, la mère et ses deux filles, elles étaient vraiment très abolitionnistes. Et il y avait une société des femmes abolitionnistes à Concord qui était importante. Thoreau, il ne faut pas se dire que ça a été un grand abolitionniste. Hein. Il était évidemment comme sa famille, dans l'esprit de l'abolitionnisme. Mais en revanche, il n'a pas eu de faits et gestes extraordinairement héroïques. Il y a eu un seul esclave qui a passé par la maison des Thoreau et qui a été, juste après la loi que vous avez citée tout à l'heure, qui a été hébergé. Donc, il a emmené cet esclave jusqu'au Canada lui-même. Et c'est le seul cas. Hein, ce n'est pas le grand résistant que nous imaginons passant son temps à emmener des esclaves au Canada.
Alors, il y a l'épisode, néanmoins, dont il a à se mêler, c'est le fameux épisode du capitaine John Brown, qui est notamment connu dans l'histoire littéraire française à cause de la magnifique intervention de Victor Hugo dans sa lettre du 2 décembre 1859 adressée aux États-Unis, où il demande la grâce de ce personnage. Je vais vous faire écouter cet extrait de Victor Hugo lu par Guillaume Gallienne, avant que vous nous expliquiez de quoi il s'est exactement agi.
Moi qui ne suis qu'un atome, mais qui, comme tous les hommes, ai en moi toute la conscience humaine, je m'agenouille avec larmes devant le grand drapeau étoilé du Nouveau Monde, et je supplie à main jointe, avec un respect profond et filial, cette illustre République américaine d'aviser au salut de la loi morale universelle, de sauver John Brown. Oui, que l'Amérique le sache et y songe, il y a quelque chose de plus effrayant que Caïn tuant Abel, c'est Washington tuant Spartacus.
Washington tuant Spartacus, la formule est restée célèbre. J'emprunte cette archive à Guillaume Gallienne dans Un été avec Victor Hugo, une émission qu'il avait offerte sur France Inter le 13 août 2015. Henriette Levillain, rappelez-nous ce qui s'est passé avec ce capitaine John Brown, en quoi il est devenu symbolique.
D'abord, ce n'était pas un capitaine, c'était un fermier. C'est Thoreau qui l'a baptisé capitaine, ça faisait plus chic. Fermier, il l'a été en Virginie pendant quelques temps avec sa femme et une ribambelle d'enfants, dont énormément de fils qui vont s'investir dans le grand combat qui va être le sien, dans un autre état où il va déménager, qui va être le Kansas. Et le Kansas était esclavagiste parce qu'en fait, les États avaient le droit de décider s'ils devenaient esclavagistes ou pas. Et le Kansas l'était. Et là, ça a été le moment où il a vraiment radicalement changé. Et John Brown, il a d'ailleurs physiquement changé. C'est absolument stupéfiant. Grande barbe, il s'habille plus du tout le fermier. Et il décide de faire une grande opération anti-esclavagisme en entraînant ses fils dans l'assassinat de 3 fermiers colons qui étaient évidemment des esclavagistes.
À coup de sabre.
À coup de sabre et sans qu'ils puissent se défendre. Hein. Bon. Et tout ça, c'était vraiment un peu en famille avec quelques ajouts, mais très très peu. Hein. Ce n'était pas une grande armée. Hein. Donc il a été arrêté finalement au moment où il a fait cette saisie d'armes au Kansas. Et là, en prison, son procès a été rapide et on a décidé la peine de mort.
La lettre de Victor Hugo arrive au moment même où l'exécution a eu lieu.
Exactement. Alors, Thoreau a été très, très bouleversé par cela parce qu'il le considère comme injuste. Hein. Et il a un peu entraîné ses concitoyens de Concorde à faire des opérations de défense, mais qui n'allaient pas vraiment contre la peine de mort, qui était en faveur, effectivement, de la libération de ce prétendu juste. Et Emerson était très embarrassé par ce fanatisme de Thoreau. Il prenait ses distances, il le considérait quand même comme un peu juvénile. Et c'est allé très loin, puisque au moment où on le condamne à mort, on le pend, Thoreau a demandé que l'on fasse sonner le glas à Concorde. Et on lui a refusé en lui disant « Non, on ne sonne le glas que pour les habitants de Concorde ». Alors, il a été très, très furieux et ça l'a mis en colère, d'où cette plaidoirie qu'il va écrire pour John Brown. Bon, la plaidoirie est évidemment mythique parce que c'est un autre John Brown que John Brown dont il parle, un sauveur de l'humanité, celui qui est victime de l'oppression, de l'injustice, d'un gouvernement évidemment autoritaire. Ce texte n'aura de succès que dans ses quelques premières lignes. Mais ensuite, je ne suis pas sûre qu'on le lira vraiment parce qu'il devient de plus en plus fanatique au fur et à mesure qu'il avance. Et ses concitoyens de Concorde se demanderont vraiment si là, il n'a pas un peu perdu la tête.
Alors, il y a un épisode sur lequel vous insistez dans votre ouvrage sur Thoreau, auquel nous consacrons cette émission ce matin, Henriette Levillain, c'est l'épisode de Cape Cod, c'est une sorte de dépaysement. Le marcheur va être désorienté, il découvre la mer.
l'océan, d'abord, qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Et d'autre part, il découvre une presqu'île déserte, pauvre, stérile, éventée, du sable partout.
Un paysage de désolation, dit-il.
Il n'avait jamais imaginé cela. Et il souffre beaucoup, beaucoup, hein, mais même physiquement. Hein. Là, c'est le sable mouvant et il n'arrive plus à marcher, lui, ce grand marcheur. Et il n'arrive pas à nager, alors qu'il est un grand nageur, parce qu'il a peur des rouleaux. Et il est accompagné d'un ami, ce fameux Ellery Channing, qui va l'accompagner partout, sauf une fois, parce qu'il n'en peut plus, Ellery Channing, d'être derrière Thoreau et d'avoir à connaître tous ces éléments. Donc, il va y retourner 4 fois. Et ça, je trouve que c'est passionnant, parce que c'est un endroit hostile. Il ne s'y plaît pas. Il ne comprend pas les habitants que de rester accrochés à cet endroit-là alors qu'ils ne peuvent rien planter, que rien ne pousse et que c'est vraiment la vie la plus stérile qu'il ait jamais connue de sa vie. Il ne peut même plus avoir de silence. Et il explique justement très très bien que l'océan, ça rugit tout le temps alors qu'il est le lac, il se calme le soir. Il est complètement déshabitué de tout et dans ce nouveau monde... Il a, à mon avis, la plus belle plume qu'il a jamais eue. Il est un nouvel homme et il doit apprivoiser quelque chose qu'il n'avait jamais apprivoisé. Et ça, c'est très, très beau. Parce que vraiment, on découvre une autre écriture que celle qu'il a jamais eue. Il n'y a pas de digression comme il y en a tout le temps dans ses écrits. C'est de l'écriture presque brute. C'est ça que j'aime beaucoup.
En vous écoutant, il me revient en mémoire... un poème de Saint-Jean de Perse que Henriette Lubina vous aimait tant, auquel vous avez consacré une biographie magistrale. Que d'autres paissent loin de mer, l'églogue au fond des vallons clos, odeur d'alice et d'origan, menthe, mélisse et mélilot.
Oui, mais Saint-Jean de Perse, à la différence de Thoreau, a énormément voyagé et en plus a beaucoup navigué sur la mer. Donc la mer, je dirais, l'a apprivoisé. Tandis que lui, qui avait une barque sur le lac et qui est remonté les fleuves sur une barque, découvrir tout d'un coup qu'il ne pourra ni naviguer, ni nager, que toute la journée, il aura du bruit dans les oreilles, du vent et de la pauvreté de la terre. Ça, c'est quelque chose qui l'angoisse énormément. C'est complètement nouveau et ça fait, pour moi, le plus beau des livres. Peut-être le moins connu et le plus beau des livres.
Il est posthume puisqu'il meurt très jeune, il est déjà très fatigué, il meurt à 44 ans, en 1862.
Parce qu'il était tuberculeux, que déjà, certainement, quand il est allé sur Cape Cod, la maladie le rongeait, mais que malgré tout, presque jusqu'au bout, il continue à marcher. De ce point de vue-là, il est d'une robustesse tout à fait remarquable.
Et c'est Emerson, qui est son maître, avec qui il avait pris quelques distances, qui se charge de faire le discours funèbre sur sa tombe. Et vous l'avez relevé et étudié de façon... qui m'a paru très pertinente.
En général, on fait plutôt l'éloge de la personne qui est dans un cercueil. On ne fait pas quand même sa critique. Or, on a l'impression que Emerson s'est retenu toute sa vie de dire à haute voix ce qu'il a pensé et il fait un catalogue de tous ses défauts et ses manques. Et en particulier, ce qu'il ne comprend pas, c'est comment il ne... Comme selon l'expression un peu aujourd'hui, il ne fait pas société. Qu'il est toujours individualiste, isolé, et qu'il ne s'occupe absolument pas des autres. Pas du tout. Il n'écrit d'ailleurs pas pour les autres. Et c'est ça, pour moi, le seul reproche que je lui ferais. C'est que si c'est difficile à lire, la plupart du temps, c'est qu'il n'écrit pour personne, il n'écrit pour lui.
Il reste à dire un mot pour clore cette émission consacrée à Thoreau, Henriette Levillain, sur cette postérité que nous évoquions tout à l'heure, qui... D'ailleurs, n'a pas été régulièrement développé. Il y a des sinusoïdes qui s'expliquent par la conjoncture successive. Je voudrais juste vous citer Martin Luther King, que j'évoquais tout à l'heure, qui explique l'influence que Thoreau a eue sur lui. En 1944, dit Martin Luther King, alors que je commençais mes études à l'université d'Atlanta, j'ai pris connaissance de l'essai de Thoreau, La désobéissance civile. Fasciné par la notion du refus de coopérer avec le mal organisé, je fus si profondément remué que je me mis à relire l'ouvrage à plusieurs reprises. Ce fut mon premier contact intellectuel avec le thème de la non-violence. C'est un bel hommage.
C'est un très très bel hommage et en fait qui contredit quand même un peu l'attitude de Thoreau, parce que c'est ça que j'aime bien dans la manière dont les successeurs relisent et déforment souvent les pionniers. Parce que Thoreau,
le principe assez général.
Oui, parce que dans la dissidence en particulier, eh bien, il en appelle au fait de se faire justice soi-même. Et ça, je pense que ce n'est pas possible. On ne peut pas se faire justice soi-même. Donc, c'est tragique, je dirais, que l'homme dans le café qui se voit évidemment dans une situation très dangereuse et qui prend son pistolet en dessous de son bar et qui tue la personne, malheureusement, il sera arrêté. On ne peut pas se faire justice soi-même. Et Thoreau l'encourage. Or, et Martin Luther King et Gandhi, ce sont au contraire des hommes de la non-violence. C'est ça que je trouve très, très intéressant. Donc, il a donné un élan à quelque chose qui, en fait, n'était pas ce qu'il approuvait.
Il est aussi un vade-mecum pour beaucoup d'écrivains voyageurs. Je pense à Nicolas Bouvier, je pense à Sylvain Tesson, des auteurs plus contemporain.
Ben, voyageur, pas vraiment, parce qu'il n'est pas voyageur. Il est un des rares de sa génération à ne jamais avoir traversé l'Atlantique. Il n'a jamais été en Angleterre. Emerson passe son temps à faire des conférences, ne serait-ce que parce que, d'ailleurs, elles sont rémunératrices, alimentaires. Hein. Donc, il passe son temps à Hawthorne, va en Italie. Ils traversent tous l'Atlantique, sauf lui. Donc, voyageur, peut-être pas. Les marcheurs, comme Sylvain Tesson, effectivement, et aussi les écologistes de l'agriculture aujourd'hui, comme Gaspard Koenig, qui effectivement a, dans son premier livre, Humus, fait une sorte de pseudo-Thoreau, philosophe de la nature.
Qu'on entend sur France Culture d'ailleurs régulièrement.
Oui, et puis il vient de sortir un livre d'ailleurs sur les eaux qui aurait certainement beaucoup plu à Thoreau. Mais il y a un passage très amusant où justement il veut à tout prix enrichir sa terre avec des vers. Et son épouse ou sa compagne lui dit « arrête de faire ton Thoreau tout le temps ». Donc ça devient d'ailleurs un problème conjugal, un problème de couple. Elle n'en peut plus à la fin de cette manière, je dirais, très pratique de faire Thoreau.
C'est effrayant.
Effrayant.
À propos de la fin prématurée, à nos yeux, 44 ans de Thoreau, on est sensible au fait que dans son œuvre, comme dans sa vie, la grande faucheuse, la Camarde, est extraordinairement présente, en différence en vérité avec notre temps.
Elle est effectivement dans sa famille, puisqu'il perd son frère très peu de temps après avoir remonté le fleuve avec lui. Et il écrit ce livre, « Sept jours sur le fleuve », d'ailleurs... en pensant à lui, puisqu'il dit tout le temps « nous », mais il ne le cite jamais. C'est pour ça que je ne considère pas que ce soit un hommage, comme elle le dit, sa biographe américaine.
Laura Wals.
Il n'évoque jamais son nom, ce qui est quand même incroyable dans ce très, très beau texte qui est « Sept jours sur le fleuve ». Et puis ensuite, sa sœur Hélène, qu'il admire énormément, l'abolitionniste dont on a parlé tout à l'heure, qui meurt également de la tuberculose. Et tout autour de lui, dans les familles très nombreuses, puisque effectivement les familles c'était 6 à 8 enfants, il y avait au moins 2-3 enfants, certains à la naissance, les femmes mouraient quelquefois. C'est-à-dire la mort était vraiment constamment là. Et je pense que cet appel à la vie, ce goût de la vie qu'il a, c'est évident que c'est une sorte de... contrepoint de... Oui, absolument. Ce qui est étrange, d'ailleurs, c'est qu'il ne parle jamais des animaux morts. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans son rapport à la nature. Jamais des animaux morts.
Il refusait la chasse, de toute façon, vous le disiez.
Oui. Et d'autre part, jamais des animaux en couple. Et il n'y a pas les bébés dans les nids, il n'y a rien du tout. Or, c'est de ce point de vue-là quelqu'un de vraiment énigmatique. Parce que ni femme, ni enfant, bien entendu, ni homme dans sa vie... Donc une vie d'une chasteté qui ne semble pas avoir été une épreuve, visiblement.
À la fin de votre ouvrage, vous proposez 2 ou 3 pages fort intéressantes sur l'idée qu'il y aurait le syndrome d'Asperger. Au fond, nous autres historiens, nous sommes toujours un peu mal à l'aise par rapport à l'utilisation des regards psychanalytiques posthumes ou après coup. Et là vous vous y livrez de façon stimulante.
C'est-à-dire que j'ai demandé l'avis quand même de pédopsychiatres, parce qu'au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, mais c'est pas possible. Pas une femme, pas un homme, pas de désir, et pas de souffrance par rapport à ça, apparemment. Et puis, dans l'oraison funèbre de Emerson, j'ai lu quand même des choses qui étaient intéressantes, à savoir que lui dit qu'une fois, il lui avait touché le bras et c'était comme un morceau de bois. Donc, en fait, il y avait...
Ça, c'est un amour de la nature qui va un peu loin.
Si vous voulez. Mais ça veut dire quand même qu'il y avait chez lui une sorte d'angoisse de la relation à l'autre. Et qu'il s'est protégé en étant dans la nature. Et il ne vit et ne joue qu'avec des individus dans cette nature. Moi, j'ai trouvé que ce moment-là, moi, m'a fasciné. Un renard, un oiseau, une souris...
Un moustique, une marmotte.
Un moustique, une marmotte, effectivement. C'est toujours un. Donc, il y a ce côté singulier dans les deux sens du mot, à la fois l'individu et en même temps étrange, bizarre. Donc, j'ai demandé à deux pédopsychiatres différentes, parce que je ne voulais pas justement qu'elles se connaissent. Et toutes les deux m'ont dit, on peut, peut-être, mais elles ont été très prudentes. Hein.
Après coup, c'est difficile de mettre un mort sur son divan.
Oui, d'accord. Et puis surtout, ces maladies n'existaient pas à l'époque. Enfin, ça n'avait pas de nom. Donc, c'est toujours très difficile. Et visiblement, comme il ne savait pas qu'il l'était, Asperger, ni sa famille, je dirais que il a trouvé tous les moyens de se défendre de cette angoisse qu'il avait certainement au fond de lui-même.
Eh bien, nous allons quitter Thoreau, auquel nous avons consacré cette émission, en le montrant comme, à la fin des fins, restant quelque peu énigmatique.
Oui, je pense que vous avez raison. Tout à fait. Et c'est ça que j'aime bien dans le personnage. Plus encore que dans ces grands mots que l'on applique très rapidement sur lui.
Paradoxalement, cela peut donner plus encore l'envie d'aller l'approcher grâce à votre livre, notamment Henriette Le Vilain, qui s'appelle Henry D. Thoreau, l'insoumis de Walden, paru tout récemment chez Flammarion. Vous avez publié beaucoup d'autres auteurs qui ont souvent connu l'Amérique, mais qui n'étaient pas américains d'origine. Je pense à vos ouvrages, naturellement, l'œuvre maîtresse sur Saint-Jean-de-Perse. Je pense aussi à Marguerite Yourcenar, qui a habité, comme nous savons, là-bas. Et puis, vous aimez la littérature anglo-saxonne. Catherine Mansfield, Virginia Woolf ont aussi eu le bonheur d'être portraiturées par vous. Vous trouverez une liste en ligne, naturellement, plus complète de votre œuvre, Henriette Le Vilain. Pour compléter ce qui concerne Thoreau, il faut citer aussi le nom salué, Thierry Gilibœuf, qu'on entend d'ailleurs souvent sur France Culture, qui a proposé une biographie déjà de Henry David Thoreau, le célibataire de la nature, paru chez Fayard en 2012. Il travaille aussi à l'édition lente, laborieuse forcément, du journal et de la traduction en français.
Oui, il a fait une très belle traduction de « Sept jours sur le fleuve ». Et il a, je crois, le grand chantier devant lui de la traduction du journal.
Et puis j'ai cité sa biographe américaine, Laura Wals, Henry David Thoreau, qui était paru aux États-Unis, qui est une biographie en anglais, dont vous trouverez la référence indispensable, comme d'autres ouvrages sur notre site en ligne. Henriette Le Vilain, merci d'avoir amené Thoreau jusqu'à nous, tout en le laissant précieusement énigmatique.
Merci à vous.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Fabien Gosset à la prise de son, Keating Wang à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac.